que vaut de l'or, garde bien le tempo et fais craquer tous tes os. Danse, danse, bouge un peu, mettons-nous en queue-le-le. La musique brille de mille feux, c'est mon amour qui le veut. J'ai le rythme dans la peau et la musique dans mon cœur. Ça me fait si froid dans le dos que ça me fait un peu peur. Bouge, bouge la peau du tempo qui danse la polka du bateau. Quand je me regarde dans la glace, ça m'est, je ne me lasse. Danse, danse, c'est la danse, c'est la danse qui balance dans la tête, chez des rêves qui jamais ne s'achèvent. J'ai le rythme dans la peau et la musique dans mon cœur. Ça me fait si froid dans le dos que ça me fait un peu peur. Je chante tout le temps, j'ai de la musique plein les dents. Je tape sur la poubelle pour que la musique soit belle. Je danse tango au rythme des haricots. Jamais je ne m'arrête parce que c'est trop chouette. J'ai le rythme dans la peau et la musique dans mon cœur. Ça me fait si froid dans le dos que ça me fait un peu peur.
Qui voulait voyager de Eric Carle. Un beau matin, un coq décida de partir en voyage. Il se mit en route aussitôt. Il allait voir le monde. Il n'était pas encore très loin qu'il commençait à se sentir seul. C'est alors qu'il rencontra deux gros chats. « Je vais voir le monde. » Alors dit-il, « Vous venez avec moi ?»« Volontiers, ronronnèrent les chats. » Que l'idée de voyager séduisait. Ils suivirent le coq. Un peu plus loin, le coq et les chats croisèrent trois grenouilles. Nous allons voir le monde. Vous venez avec nous ? Pourquoi pas ? Répondirent les grenouilles. Nous n'avons rien de mieux à faire. Et elles suivirent le coq et les chats en sautillant. Plus tard, le coq, les chats et les grenouilles aperçurent quatre tortues qui se traînaient tout doucement sur la route. Le coq est là. Vous venez avec nous, nous allons voir le monde. Ça a l'air amusant, commenta une des tortues. Comme le coq laissa les grenouilles et les tortues aller leur chemin, ils virent cinq poissons qui nageait dans un ruisseau. Où allez-vous comme ça ? Demandèrent les poissons. Nous allons voir le monde. On peut venir avec vous ? Supplièrent-ils. Vous êtes les bienvenus, affirma le coq. Et les poissons vinrent grossir la troupe. Bientôt le soleil se coucha, le ciel s'assombrit et la lune se leva à l'horizon.
« Qu'est-ce qu'on mange, voulurent savoir les chats. Où est-ce qu'on dort, s'inquiétèrent les grenouilles. On a froid, gémirent les tortues. Soudain, des lucioles paraissent au-dessus de leur tête. On a peur, pleurnichèrent les poissons. Le coq ne savait pas comment rassurer ses amis. Il avait oublié de prévoir les repas et le logement. Il n'avait aucun plan. Personne ne dit rien. Mais au bout d'un moment, les poissons annoncèrent qu'ils préféraient rentrer. Ils souhaitèrent un bon voyage à tout le monde et s'éloignèrent. Les tortues qui regrettaient le confort de leur petit chez-soi firent demi-tour. Un instant plus tard, sans même un au revoir, elles s'en allèrent en se traînant. Les grenouilles non plus n'étaient pas contentes d'un bond. La première prit le départ, suivie de la deuxième, puis de la troisième. Avant de disparaître, elles souhaitèrent au coq une excellente soirée. C'est alors que les chats se rappelèrent de leur plat de viande qu'ils n'avaient pas fini de manger. Ils firent leur amitié au coq et eux aussi rebroussèrent chemin. Resté seul, le coq réfléchit. Puis, redressant la tête, il s'adressa à la lune. « Je voulais voir le monde et je n'ai rien vu. » J'ai froid, j'ai faim, mais pour être honnête avec vous, j'ai surtout le mal du pays. La lune ne répondit pas. Elle s'en alla comme les autres. Alors le coq comprit qu'il valait mieux faire demi-tour et rentrer à la maison. Bientôt, après s'être régalé de graines, il s'installait sur son bon vieux perchoir. Il ne tarda pas à s'endormir. Et cette nuit-là, il fit un rêve merveilleux. Il rêva qu'il partait faire le tour du monde.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire, vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, que vous connaissez tous, qui ne connaît pas Flo Descailloux, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement de nous accompagner pour cette belle rencontre. Alors aujourd'hui, nous avons deux invités, voilà, Philippe Breneau pour Taxithérapie, c'est un roman qui vient de paraître aux éditions Serge Safran, et Gilles Verdet qui est déjà venu dans notre émission pour des nouvelles et qui revient de nouveau pour des nouvelles et des nouvelles, un recueil de nouvelles intitulé Les Passagers, ça vient de paraître aux éditions de la Rhubarbe, édition Rhubarbe, hein, éditeur. Je crois que vous étiez d'ailleurs venu, Gilles Verdet, pour un précédent livre aux éditions Rhubarbe.
Absolument, Fausse Route aux éditions, ouais, Rhubarbe.
Très très bel éditeur aussi. Alors bon, je vous ai réunis tous les deux parce que tout simplement il m'a semblé que, comment dire, je dirais pas c'est vos univers, mais c'est la focale que vous employez l'un et l'autre se rejoint, puisque ce sont finalement, je dirais que Philippe Breneau, c'est un roman qui pourrait être un recueil de nouvelles, et Gilles Verdet, c'est un recueil de nouvelles qui pourrait être un roman, et que tous vos personnages, vous avez deux livres, puzzle, tout se rejoint, les vies, d'ailleurs c'est la vie, tout se rejoint. Le moindre petit bout de vie rejoint l'autre petit bout de vie, etc., etc. Alors, je voudrais savoir un petit peu le point de départ de cette multiplicité d'actions pour une unité de lieu, je crois. Philippe Breneau, vous avez choisi le taxi parisien pour faire taxithérapie. Donc, c'est un taxithérapeute, on va dire, taxipatricien.
Oui, unité de lieu. Je dirais tout à l'heure, le début de cette histoire est très drôle, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Mais il y a une unité de lieu et je voulais une unité de temps. Alors ce roman se déroule sur une semaine, du samedi au samedi, et cette unité de lieu, on l'a. C'est le taxi, cet habitacle, c'est-à-dire un lieu apparemment fermé, mais qui se déplace. Et comme je ne révèle pas grand-chose en disant que c'est un chauffeur de taxi qui est psychanalyste, dont les patients sont allongés à l'arrière. Et donc, d'une certaine façon, c'est ce que j'ai appelé un divambulatoire, puisque ces divans se promènent à travers Paris et à travers un Paris imaginaire qui est celui de ce chauffeur de taxi, comme beaucoup de chauffeurs de taxi. Il est d'origine étrangère et donc sa vie va se mêler à celle de ses patients et un certain nombre de choses vont se résoudre dans ce taxi.
Voilà, et je pense que c'est le déclic est venu quand vous avez pris un taxi.
Enfin, pas du tout.
Non.
Alors, je vais raconter l'histoire.
Ah bah oui, je peux savoir.
L'histoire est assez étonnante. Je suis un Bordelais qui habite Paris depuis 20 ans, mais c'était quelque temps avant, c'était en 1997 ou un truc comme ça. Et pour un livre précédent, je pense que c'était pour mon éloge de la masturbation, qui n'était pas resté à l'époque chez Zulma, je passe à la maison de la radio. Et puis, en partant de la maison de la radio, on vous donne souvent un taxi pour vous ramener chez vous, puisque on ne dédommage pas les auteurs, sauf par un taxi. Alors, je descends dans ce taxi, et habituellement, je ne vais pas parler avec le chauffeur, parce que qu'est-ce qu'on va dire, café du commerce, comme ça. Mais ce type était très gentil, et me demande, j'écoutais la radio, là, mais vous étiez à une émission, et oui, je lui dis laquelle, mais que faites-vous? Eh bien, je suis psychiatre. Et me dit-il, nous faisons le même métier. Vos patients sont allongés, ne vous voient pas et vous racontent leur vie. Eh bien, les miens, mes clients sont assis derrière, ne me voient pas, ils me racontent leur vie. Et cette chose a tourné dans mon esprit pendant longtemps. Je trouvais que c'était la situation était très intéressante. Et bon, j'y rajoutais des tas de choses que je sais par à la fois mon expérience et puis par tout un tas de choses qui me sont venues de cette situation qui est très romanesque. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réceptacle devant qui est le siège du chauffeur que voient les patients, et puis cette espèce de boucle qu'a le chauffeur de taxi qui les voit, qui les contrôle par un rétroviseur panoramique. Alors il y a tout un tas de situations cocasses et ça va me permettre de critiquer peut-être la société. C'est une sorte de fable urbaine sur la société et la conjugalité.
Oui, et puis voilà, les affinités des uns ou des autres, ou les non affinités des uns ou des autres. Vous, Gilles Verdet, donc c'est les passagers. Donc il y a le fleuve, il y a la présence du fleuve. Alors comment est né ce recueil de nouvelles, Gilles Verdet?
Alors là, le fleuve, là c'est pas pareil du tout. C'est le fleuve, c'est le Guadiana, qui est un fleuve qui fait 800 km, qui prend sa source en Espagne, dans la région de la Manche, et qui passe au Portugal et qui sépare, qui est la frontière entre l'Andalousie et l'Algarve au sud de l'Espagne. Et tous les personnages qui popent cette nouvelle vont se rencontrer, ils viennent d'horizons très lointains, mais pour des motivations très différentes. Et finalement, ils vont se rencontrer, se croiser, s'entrecroiser, s'entremêler, jusqu'au pire, jusqu'à s'entretuer parfois.
Oui,
dans
oui.
Cette espèce d'Éden.
On tue volontiers.
Oui, mais parce que vous savez ce qu'on dit, la vie, ouais. La vie est un fleuve tranquille, mais c'est les rives qui sont dangereuses.
Oui, les rives, faut accoster. Et c'est vrai que... Enfin, c'est toujours passionnant avec vous, Gilles Verdet. J'avais lu avec beaucoup d'intérêt votre précédent livre qui est paru aux éditions de L'Arbre Vengeur.
C'était Nom de nom.
Et d'ailleurs, vous avez démarré par le polar. Ça, c'est très important, je pense.
Oui, enfin, polar, oui, je ne sais pas trop ce mot-là, mais plutôt du roman noir. Oui.
Roman noir,
publié,
voilà.
J'ai publié en série noire et puis d'autres romans noirs, oui. Parce que je trouve que le roman noir, c'est le lieu de l'écriture sociale, un peu, de la modernité et de la. Ouais.
Alors, bon, là, tous les deux, un autre point commun, c'est la place du silence, parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans vos deux livres, Philippe Renaud et Gilles Verdet, mais il y a une place du silence et du non-dit. L'un et l'autre. Vous, Gilles Verdet, vous pratiquez, point de vue stylistique, j'allais dire, l'ellipse. Donc, je l'ai vu vraiment, hein, parce que là, c'est. Voilà, ça se ressent. Il y a un rythme dans l'écriture, il y a une sorte d'écriture elliptique. Et vous, Philippe Renaud, il y a le fameux psy, c'est-à-dire les silences qui veulent tout dire, mais auxquels vous laissez une part, avec de l'humour, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a toute une gradation dans ces. Ces murmures d'approbation ou non. Il y a même un thérapeute américain qui, lui, on voit comment outre-Atlantique, le silence, le est assez différent. Bon, c'est des.
Ouais, c'est marrant parce que.
Je pense que c'est des choses vraies et exactes. Ceux qui pourraient le dire, ce sont des patients ou des clients qui ont vu plusieurs thérapeutes. Et ça serait très intéressant. Pardon.
Eh ben voilà.
Ça serait très intéressant que, oui, quelqu'un qui a connu beaucoup de. Alors, c'est pas que des silences, cette espèce d'approbation.
Silencieuse.
Par murmure, par. Quelque chose d'intériorisé, ça ressemble un petit peu aux exercices que font, vous savez, les chanteurs classiques, même pour
les vocalises.
Des vocalises intérieures, et le du psychiatre, du psychanalyste, est souvent un petit bout de cela, parce qu'il y a beaucoup de nuances, et très souvent, je suis persuadé que c'est une façon de répondre à ce qui vient d'être dit, et que la réponse le sera en fonction, certainement, de cette modulation. Il y a 1000 modulations, je pense. Je l'ai ensuite stéréotypé d'une façon simple, mais je pense qu'il y a beaucoup de modulation des psys dans leur silence. C'est pas un silence. Il y a quelque chose de l'ordre de l'approbation, certainement pas de la réprobation. Par contre, ça peut être entendu comme ça, hein, puisque c'est le problème, c'est ce qui est entendu par l'autre.
Oui, et puis il y a aussi le silence du psy lui-même, César, sur sa vie, sur sa vie, le silence de sa vie qui résonne. Qui résonne beaucoup dans le livre, parce qu'on l'entend, ça après c'est par petits bouts, on va en parler, mais les petits bouts de sa vie surgissent. Gilles Verdet, vous, ce silence, y compris travail de rythme sur l'écriture.
J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de silence dans mon texte, ou alors oui, le silence du fleuve peut-être, le silence du fleuve, oui. Mais oui, parce que tous les personnages viennent à cet endroit-là, parce qu'ils imaginent un monde plus radieux, ils imaginent, notamment il y a des retraités de banlieue qui viennent là, et en fait, je pense que le fleuve frontière, c'est une espèce de métaphore un peu. Hein, et tous, ils vont passer
le Styx. Le
Styx, peut-être, oui. En tout cas, ils vont passer la frontière de la légalité, la plupart.
Hein. Et de la mort.
Et de la mort, forcément, oui.
Et de la mort. Et
alors
puis,
que cet endroit-là, je le connais, c'est un petit paradis. Quoi, voilà, c'est somptueux, magnifique. Les rives sont riantes, c'est plein d'arbres fruitiers. C'est une merveille.
Oui, mais ils sont pas très bavards finalement vos personnages. Moi, je les trouve pas. Ils agissent surtout. Enfin, ils font des actes. Ils trafiquent. Il y a beaucoup de trafic.
C'est le
clandestin qui ressurgit de tout ça. C'est la vie clandestine.
Le passager clandestin.
Oui.
Oui. Et il y a un passager clandestin d'ailleurs qui vient de Guinée et qui se cache dans un train d'atterrissage et qui survivra pas à l'affaire. Oui.
Voilà, à chaque fois, ils sont tous passagers clandestins et de leur propre vie et de ce qui va arriver et de leur propre fonction, si on peut dire, leur métier.
Oui, oui. Mais le mot passager, en fait, c'est celui qui est transporté, mais qui n'est pas c'est pas celui qui conduit, c'est celui qui est transporté et donc qui est pas dans l'équipage, comme dans un taxi, dans un avion ou dans un bateau. Et passager. Et puis l'adjectif passager, ça veut dire aussi quelque chose qui dure pas, mais ça veut dire aussi quelque chose qui est très fréquenté, un endroit passager. On parle d'un endroit passager.
Ouais. Et voilà. Alors on va passer sur le siège passager avec Philippe Renaud. C'est vrai que le fait de c'est un roman bon sur un psy qui s'appelle César. Il conduit, alors il y a vraiment toute la métaphore aussi, être conduit, conduire sa vie. Se laisser amener sur des routes. Là, la métaphore est très forte aussi pour Gilles Verdet, c'est-à-dire on emprunte une route, on ne sait pas laquelle. Et là, vraiment, j'ai trouvé que c'était assez fort. Hein, être acteur de sa vie ou être passif. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations dans votre livre, Philippe Brenneau.
Oui, alors j'ai laissé aussi aller mes inspirations personnelles qui sont, j'allais dire, seraient plutôt du côté de Boris Vian, de quelque chose du buesque, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impossible parfois, et surtout de pousser les limites du possible, non pas comme une utopie, mais peut-être pour critiquer les positions analytique, bien sûr. J'ai une formation de cet ordre-là, mais je trouve qu'il y a des critiques qui peuvent être constructives, parce que tout de même, ce taxi va vous laisser dans Paris, parfois n'importe où, puisque selon des injonctions lacaniennes, il pratique l'ascension, il peut la pratiquer n'importe où, il vous laissez au but de Chaumont alors que vous vouliez aller ailleurs, et dira-t-il, je vais peut-être vous amener là où inconsciemment vous ne pensiez pas aller. C'est-à-dire que je vais essayer de jouer, et j'ai joué, je me suis beaucoup amusé à laisser venir, c'est l'intérêt, moi je crois, de la position romanesque, qui est très difficile quand on a été du côté de l'analyse, que ce soit pas de la psychanalyse, de l'analyse des choses. Il faut vraiment l'abandonner. Dans une position romanesque, ce César fait des choses que peut-être que j'aurais fait inconsciemment, que j'aurais aimé faire, mais qu'on n'osera pas faire. Et en définitive, cette espèce de transgression permanente de la réalité me donne cette fable ubuesque qui m'a beaucoup amusé parce qu'elle est très vraie. Elle joue de situations qui sont des situations humaines que l'on rencontre aujourd'hui, beaucoup des problèmes, notamment la grande part des psychothérapies tournent autour de la conjugalité, et en définitive les couples se font, se défont, mais avec des situations de contraintes littéraires ou romanesques, ça va amener des situations un petit peu curieuses, quelquefois.
Oui, puis la famille, il y a la conjugalité, ouais. La famille, la solitude aussi qui est présente, et avec des citations, il y a un jeu d'intertextualité. À la fin, d'ailleurs, c'est la fin de votre livre, de votre roman, vous donnez les clés, donc on a une sorte de répertoire des citations qui sont reprises par César, quand il cite un auteur, il cite un proverbe, et c'est amusant, voilà. Et à la fin, même, on a un peu la fiche, c'est comme un jeu des sept familles, on a la fiche un portrait de chaque passager.
Alors, si on doit parler de ça, ce César, puisque moi je suis parti de cette histoire, voilà, je déconstruis le livre, ou plutôt je le reconstruis pour les auditeurs. Cette situation que me raconte ce chauffeur de taxi était très intéressante. Et puis quand je la mets en scène et je la laisse marcher pour voir comment ça va fonctionner, ce chauffeur de taxi est arrivé, il est né à l'étranger, je ne dévoile pas parce que c'est une grande part de son histoire personnelle qui sera révélée dans le roman. Il n'est pas psychanalyste de formation. Et donc il va relancer la thérapie ou relancer le dialogue avec le patient par des phrases emblématiques. Et ces phrases emblématiques peuvent venir de psychanalystes, effectivement. Il peut y avoir des phrases que l'on connaît très bien, des phrases qui sont curieuses, par exemple de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel. Ça peut être un jeu qu'on va donner. Lacan disait là-dessus, il n'y a pas de rapport entre la jouissance de l'homme et la jouissance de la femme. Vous voyez, c'est très loin de ce qui peut être dit, mais César va dire, il n'y a pas de rapport sexuel, ça va être pris au premier degré, mais il va continuer pour déjouer la situation. Donc en définitive, il va parler par sa bouche, et il va aussi bien citer des phrases de la Torah, un proverbe qui va lui sembler judicieux, tout un tas de phrases qui vont amener des situations cocasses, mais en définitive, qui sont des substituts, qui sont des moyens qu'utilisent les thérapeutes. Très souvent, on utilise, par exemple, des phrases toutes faites. de façon à permettre à la personne de rebondir ou de s'accrocher dessus. C'est pas une vérité, mais je peux très bien dire oh, les choses sont toujours comme ça. Bon, peu importe.
C'est un premier tiroir.
Voilà. Et là-dessus, alors lorsque effectivement ces phrases sont très particulièrement choisies, ouais, ça va être révélateur.
Bah, la première phrase, je crois que c'est vous avez plus de souvenirs que si vous aviez 1000 ans, par exemple. Ça m'a amusé parce que voilà, on est dans la mémoire. Et puis il y a une attention parce que César, en fait, c'est un roman dans le rétroviseur. Il regarde le rétroviseur. Il n'arrête pas de regarder les deux rétroviseurs, mais celui où on voit le siège arrière, le passager. Et là, il observe les attitudes, les gestes. Il y a tout un truc. C'est tout de même surprenant le nombre de petits gestes dont nous n'avons aucune conscience et qui révèlent tant de nous-mêmes, se plaît à penser César, tout en lançant un regard vers le large rétroviseur qui lui permettait d'avoir un œil sur son client. Donc, il y a toute une gestuelle, je dirais presque une chorégraphie dans ce taxi. La façon de s'asseoir, la façon de débouler, façon... Nous, ici, on pourrait le faire aussi, quand on déboule dans un studio de radio. Quels sont les gestes, les attitudes. Pour ça, je parlais un peu de silence aussi, parce que c'est... Il y a d'autres langages, voilà. Vous mettez en scène différents langages.
Oui, avec le fait que ce qu'on perçoit pas très bien, et j'ai pris beaucoup de taxis dans ma vie, mais là, je l'ai fait beaucoup pour regarder les situations.
Ah, vous l'avez fait en plus pour...
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est très amusant, parce que je suis tombé sur des taxis qui avaient presque l'histoire de César. Des gens, les chauffeurs de taxi à Paris ont des histoires extraordinaires. Je pense à un chauffeur de taxi sud-américain qui était un auteur dans son pays, qui pour vivre, était chauffeur de taxi à Paris, m'a envoyé un de ses livres, on a essayé de faire une traduction. Enfin, il y a des histoires formidables avec les chauffeurs de taxi. Mais autant il voit absolument tout ce qui se passe avec ce grand rétro, mais nous ne les voyons pas.
Oui,
qu'est-ce que nous ne pouvons voir si on regarde bien? On peut voir le regard, les deux yeux du chauffeur à l'extrême et pas toujours. Alors que lui a une situation totalement différente. Et alors c'est cela que j'ai un petit peu exploité. Et puis c'est aussi des choses qui sont la réalité. Tous les thérapeutes savent... Il y a quelque chose qui est très vrai. Entre le moment où un thérapeute prend son patient dans une salle d'attente et où il vient s'asseoir, il a tout compris de la personne. C'est-à-dire sa façon de se lever, les moindres gestes, d'avoir serré ou non la main. Là, il y a un très beau texte de George Sand, moi, que je cite souvent, mais qui dit « Rien qu'à la main, on sait qui, la main chaleureuse, la ta-ta-ti-ta-ta-ta. » Et en définitive, César est un vrai thérapeute, alors qu'il n'a pas de formation. Et alors, il va faire avec ses moyens du bord et son petit carnet où il a les citations.
Ah, j'aime bien son petit carnet, ouais. L'élégance du geste s'apprécie à distance. Le maintien et la tenue sont des actes de noblesse. Gardez-vous-en. Le maniérisme est un signe de névrose, tandis que l'entrain est révélateur d'une grande liberté. Donc voilà, il y a à la fois des... C'est un livre d'observateur. Et avoir l'œil sur le rétroviseur, c'est la fonction même du psy, quoi. Enfin, il a un œil, vous avez un œil, vous, en tant que psychiatre, sur le rétro du patient, et lui-même doit avoir un œil sur son propre rétroviseur.
Oui, avec le jeu extraordinaire, bon, ça passe quelques fois, mais que c'est pas rien que ce soit un rétro. C'est-à-dire quelque chose qui se passe en arrière.
Ouais.
Et bon, quelquefois, j'ai essayé de le faire passer. On n'a pas besoin de tout comprendre. C'est comme ce que disait Lacan, il n'est pas nécessaire de comprendre pour lire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont passées que vous n'avez pas vues, et ça vous permet d'apprécier.
Autre fait et geste proche de votre fonction, Philippe Bruneau, passer à la vitesse supérieure ou rétrograder. Parce qu'en fait, la vitesse, César et les taxis, bon, il a ses patients, et puis il répond avec sa boîte de vitesse, avec sa façon de conduire, finalement, aux aveux ou non qui lui sont faits, dans ce fameux confessionnal ambulant, il répond comme ça, il a une façon de conduire même plutôt douce ou brutale, avec sa fameuse Mercedes, d'ailleurs Mercedes, voilà, c'est...
Ah mais c'est pas n'importe quelle Mercedes, une Classe C, avec les cylindres dont il parle, le bruit, il est amoureux de sa mécanique.
Mais c'est un prénom de femme déjà, Mercedes.
Oui, bien sûr.
Voilà. Ah, ouais, forcément. Vous parlez aussi du contre-transport, ça veut dire...
Alors après, là, même ça ne dévoile pas ouais. grand-chose. Hein, oui, je vais jouer. C'est-à-dire que le César, il n'est pas psychanalyste, il est taxi-analyste. Et il croit d'ailleurs que c'est répandu, parce que son maître lui a raconté que, bon... Et en définitive, il va inventer un certain nombre de choses, notamment, tiens, je dévoile pas grand-chose, hein, on connaît le surmoi, mais lui, il est adepte du sous-moi. Et alors, ça peut faire rire, et il fait toute une dialectique sur le sous-moi et la façon dont les gens qui ont un sous-moi peuvent très bien se trouver avec quelqu'un d'autre qui a un autre sous-moi. Bon, ainsi de suite. Mais vous savez que c'est une réalité. Moi, je suis un bibliomane, bibliophile, j'ai 5000
bibliophage.
Livres. Bibliophage. Oui, collectionneur. Ouais. Si, collectionneur incroyable. Et j'ai trouvé, il y a 30 ans, un livre qui s'appelle, c'est au début du XXe siècle, il y a plein de gens, de médecins souvent, qui allaient inventer des théories farfelues, il n'y avait pas de théorisation. Et je trouvais un livre qui s'appelle Le sous-moi. Au moment où Freud avait dû la théorisation de la psychanalyse, c'est fin 19e, bon, mettons 1905, et ça doit dater de 1920, ce type a publié Le sous-moi. C'est très amusant, ça n'a aucun fondement, mais j'ai trouvé que c'était très bien de le reprendre. Donc César a une culture formidable puisqu'il mentionne même le sous-moi.
Il invente. Comme toujours, la décélération était pour César une manière de scansion de la séance. Il était passé maître dans l'acte du changement de vitesse et conduisait à l'oreille. Ça, j'aime bien conduire à l'oreille. Comment écrivez-vous, Philippe Bruneau? Est-ce que vous conduisez comme vous écrivez? Est-ce qu'il y a eu un rythme particulier pour... Comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez hésité entre la nouvelle et le roman? C'était un roman d'emblée?
Oui, mais d'abord, y a une chose, c'est que j'adore conduire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait 300 kilomètres. J'habite Paris, mais je suis allé chercher quelque chose à 150 km, je suis revenu pour arriver ici. Et j'adore conduire. Alors, conduire à l'oreille, ça je connais, j'ai eu des moteurs avec lesquels on vit, on vibre, bien sûr. Par contre, non, pour moi, il n'y a pas de doute. Le roman, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais je vais le dire, allez, en une minute. J'étais très jeune, j'avais 18 ans, j'écrivais beaucoup de nouvelles. J'ai eu un prix de la nouvelle vers un petit peu plus loin. J'étais sur plusieurs romans et puis une histoire personnelle qui m'a fait prendre peur de l'angoisse que ça a provoqué. Je me suis interdit le roman. J'ai publié à ce moment-là un livre de poèmes, c'était en 1985. Et j'ai arrêté totalement la fibre romanesque et me sont venus 53 livres que j'ai écrits pendant 30 ans. Et ça, les derniers qui sont souvent sur le sexe, l'amour, le couple, il y avait des éléments personnels qui venaient et j'ai décidé de séparer et c'est pour ça que je suis revenu et c'est pour ça que c'est un roman. Et
qu'il y a pas de doute. Premier roman.
Oui, c'est officiel. Il n'y a pas de doute. Oui, j'en ai, comme beaucoup de gens, on en a écrit d'autres qui ne nous intéressent pas. Celui-là me paraissait intéressant à publier, mais effectivement, c'était c'était ma ligne directrice, abandonnée pour des raisons très, très personnelles, et qui s'est réimposée. Voilà.
Ouais, bah, tant
et
mieux,
c'est pour ça
mieux.
Que je suis dans des autres choses, du côté romanesque, bien sûr.
Vous prenez des ingrédients de la réalité avec des personnages, par exemple, il y a un psy, je crois qu'il a inventé, Calame, ça fait penser au Calame pour écrire, d'ailleurs. Et toujours aussi, alors, au Calame, et puis ça fait penser à ce phénomène de double écoute, parce que César, il écoute sans écouter.
Oui.
Il n'est pas professionnel, on lui dit... Oui. Il l'a choisi sans choisir cette condition comme ça. Enfin, il l'a choisi, oui, mais par exemple, vous dites, si on a deux oreilles, disait-il, c'est pour entendre les deux discours, la parlotte intérieure qu'on a du mal à contenir, et le bavardage lancinant du client, qui confine parfois au réquisitoire ou à la causerie, quand les plus acharnés entonnent de véritables discours, des serments, des conférences. C'est drôle ce que les patients sont différents les uns des autres, y compris, voilà, de la parlotte au bavardage, où trois mots essentiels peut-être vont sortir.
Non, vous avez tout dit.
Là, c'est vous. Hein. Que j'ai... Non, là, c'est vous qui l'avez écrit. Hein.
Oui, bien sûr.
Et il y a une autre chose aussi, très, très marrant. La technique des psys est assez proche de celle du marteau-piqueur. Ça, j'aime bien celle-là. Non, parce que moi, je cite les. Voilà, je cite. Une percussion constante et inlassable qui permet de buriner la névrose, puis de perforer le trauma. La puissance de frappe étant proportionnelle à la pertinence des mots.
Oui, alors ça c'est très vrai, c'est des techniques psychothérapiques, qui est par exemple le fait de revenir régulièrement, et ce que fait César, c'est-à-dire, tiens, il lance une interrogation, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. Oui, mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai pas besoin. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. Tadada, jusqu'à ce que la personne dise, ah oui, c'est vrai, ça fait penser, mais c'est une technique vraie de psychothérapie que j'ai un petit peu exagérée. C'est-à-dire que forcer le trait permet, dans cette situation ubuesque, de montrer les limites de la psychanalyse, et puis de montrer son intérêt. Ou plutôt de montrer l'intérêt de ne pas avoir les dérives, certaines dérives qu'a César, et qui fait qu'il est empêtré dans des histoires, parce que sa vie devient très compliquée, puisqu'elle est mêlée à celle de ses patients.
Voilà. Elle est mêlée, on peut dire quand même que César a une histoire particulière, c'est un enfant volé, enfin, voilà, il a une enfance qui n'en est pas une. Enfin, il a plusieurs identités. Enfin, il a plusieurs vies comme nous tous. Ouais. Et puis il est le témoin aussi un peu d'un mariage qui on ne sait pas s'il va avoir lieu ou pas.
Ah,
c'est ça un peu l'intrigue. Hein,
oui, derrière, il y a quand même des interrogations qui traversent. Alors, j'allais dire mon œuvre, tout ce que j'ai écrit dans le domaine de la psychologie du couple, de la famille, même ma grande bande dessinée, L'incroyable histoire du sexe, ça tourne autour de ça. De la domination masculine, de l'interrogation générale de l'humanité, qui est quoi? Qui est le père? La mère, il n'y a aucun doute. Pourquoi domination masculine? Pour essayer de contraindre les femmes afin qu'on sache qui est le père. Mais dans l'histoire, dans taxithérapie, c'est l'histoire de deux orphelins. Et en définitive, le titre, avant que ça s'appelle taxithérapie, ça s'est longtemps appelé... je ne le retrouve plus. Tout le monde n'a pas la chance de naître orphelin.
Ouais.
Et pendant très longtemps, je l'ai gardé. C'est une citation de Jules Renard arrangée, parce qu'elle n'est pas exactement comme ça. Mais c'était ça ma problématique. Et bon, c'est plus parlant et je trouve que
oui, c'est mieux taxithérapie. On va voir s'il y a de la musicothérapie. Peut-être on va faire une pause musicale et après on continue la route.
Zim, 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 zim.
C'est Thomas Pynchon aux portes de la capitale.
Zim, 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 zim. Aux portes de la capitale, j'entends des gens qui pleurent. Pas des larmes de sitcom, de victoire de César. Non, rien que de simples larmes de femmes et d'hommes. Le soleil se lève bien plus tard. Sur les cheminées d'usines et les façades qui baillent. Toujours les mêmes trains, toujours les mêmes rails. Le boulevard s'illumine et la ville lumière. Va terminer sa nuit en orgie pendant que dans ma cité une femme achève sa dernière prière. La capitale, le béton ne sait pas chanter. Qu'est-ce qu'ils ont fait les architectes de nos cités? Entendent-ils la détresse de tous les jours? Y'a pas de lampion qui brille sur les nuits de nos tours. À coup sûr, les coups de peinture n'effacent pas les fissures. Écoute la chanson qu'elle nous murmure, toujours la même, plaintif poème. D'où nous requiem. Pourtant y'en a qui dansent dans la haute société. Ils n'aiment pas mes paroles et ma musique ne les fait pas vibrer. Ce soir les lumières de Paris vont s'éclairer. Alors qu'à ses portes, des gens se perdent dans l'obscurité.
capitale, j'entends des gens qui pleurent, les yeux perdus dans le gris du ciel de la vie, et des jours qui font la course entre béton, bitume, ozone et décibels. Devant nous, derrière nous, quelle différence. À l'école, ils parlaient d'égalité des chances. Abandon, ils y ont coulure de serre. Je les entends gémir toutes ces carcasses de rêve. Capitale, j'entends des gens qui pleurent. Pas des larmes de sitcom, de victoire de César. Non, rien de simple, larmes de femmes et d'hommes. Le soleil se lève bien plus tard. Sur les cheminées d'usine et les façades qui baillent. Toujours les mêmes trains, toujours les mêmes rails. Les boulevards s'illuminent et la ville lumière. Va terminer sa nuit en orgie pendant que dans ma cité une femme achève sa dernière prière.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, nous discutons de deux, vous écoutez l'émission Bibliomanie avec Philippe Breneau et Gilles Verdet. Pour Philippe Breneau vient de publier Taxithérapie aux éditions Serge Safran, c'est un roman, et Gilles Verdet un recueil de nouvelles, Les Passagers, aux éditions La Rhubarbe. Alors c'est vrai que Philippe Breneau, voilà, dans votre roman, on ne sait pas, il y a un passage important. Je pensais à l'usage de la parole de Nathalie Sarraute. Il y a un passage important. C'est finalement, il y a César qui cite les mots des autres, qui capte les mots des autres. Mais après, il y a une interrogation à qui appartiennent les mots. Je crois que c'est une question de l'un des passagers. À qui appartiennent les mots, cinglant le passager. César, qui expérimentait la position du client malgré lui, était obligé d'innover, savourant intérieurement le duel qui s'engageait. Deux solutions à celui qui les prononce ou à celui qui les entend. J'ai un faible pour la première. Donc c'est, voilà, à qui appartiennent aussi nos histoires.
Alors là, c'est, moi ça m'évoque quelque chose d'autre. J'ai écrit ça, c'est Victor Hugo et Juliette, Drouet. J'avais écrit un livre chez Ulma il y a des années qui s'appelle De la lettre d'amour, et où je reprenais énormément de choses des lettres d'amour. Et parmi les lettres, d'habitude, il n'y a qu'un grand écrivain et elles sont conservées par la famille du récepteur. Mais là, les deux sont conservées. Et Juliette disait que ça appartenait à celui qui les écrit et Victor voulait absolument que ça appartienne à celle qui les recevait. Et moi, j'ai fait référence, j'ai transféré ça parce que c'était ce beau dialogue. Voilà.
Oui, de même le livre, qui l'écrit finalement, oui. Peut-être nous, parce que vous laissez la porte ouverte. Hein. Oui. À chaque fois, même à la fin, on continue l'histoire. C'est assez drôle, parce que là, ça se termine par, pour moi, pour une fin, avec une fin ouverte. Enfin, on ne va pas révéler la fin de l'histoire, mais
bon, oui,
il y a ce mariage qui va avoir lieu ou pas lieu, ouais. On verra bien, avec tous les protagonistes de la famille, et tout le monde défile sur le divan du taxi, jusqu'à la fin, puis avec une fin, finalement, c'est au lecteur de faire son propre chemin.
Mais oui, parce que c'est le problème de la conjugalité. Et là, je parle au-delà de moi, enfin, écrivain, de ce roman, en tout cas. Je m'occupe de couple depuis très longtemps. Je suis un observateur des couples, et c'est comme ça que j'amène ces choses-là. Et je vais vous dire une chose terrible, mais qui est très vraie. C'est pour ça que je continue à écrire sur le couple. Le couple est certainement le premier objet d'angoisse de nos contemporains. Vais-je mourir seul ? C'est cette question qui se pose. Et en définitive, à tous les âges de la vie, même j'ai vu des gens, même à 30 ans, l'interrogation est terrible s'il y a une distension. Et en fait, dans ce taxi, ça va être des couples quelquefois qui se font, puis qui se défont, et on est devant ces interrogations qu'on a tous. C'est vraiment... un problème de notre époque qui n'existait pas, qui, à deux générations, ça ne se posait pas, pour d'autres raisons, même si c'était institutionnalisé comme ça.
Ouais. Et puis, alors, il y a toute une géographie de Paris qu'on se découvre. Et moi, j'ai bien aimé tout. Vraiment, dans la géographie césarienne, la place de la République occupait une position stratégique, telle une île au confluent des fleuves qui la nourrissent. Voltaire, Magenta, Saint-Martin, Beaurepaire et plus au sud, la rue du Temple, qui s'écoule en bas de la Seine. Bah. Et vous dites même cette phrase, les terrasses sont, dites-vous, les maillots de bain de la capitale. Il y a toute une poésie de Paris, on sent que vous aimez Paris, on sent que vous aimez ce brassage-là, cette vie, j'allais dire un bouillon de culture.
Oui, tout à fait. Et puis, je me suis aperçu que les chauffeurs de taxi ont vraiment... Enfin, les vrais chauffeurs, pas aujourd'hui, certains, ils fonctionnent au GPS.
Ouais, c'est ça.
Mais les chauffeurs de taxi ont une géographie personnelle. Ils ont même reconstruit quelquefois une part de leur existence première. Et en définitive, elle est très affective, cette géographie césarienne.
Ouais. Et puis, des questions plus graves sur la prostitution. Oui. Puisqu'il y a une escorte, je pense.
C'est la même chose.
Ouais, voilà, quelques nuances près, c'est la même chose. J'ai connu des prostituées aisées à Neuilly ou dans le 16e. Elles n'avaient pas besoin de fric. C'était ni par vice ni pour l'argent. Elles le faisaient par haine. Haine de leur père, haine de leur mère, de leur mec, de tous les mecs. Moi, c'est pareil. Donc, il y a une lecture sociologique en plus. Il y a l'anecdote, puis derrière, il y a les vies, il y a la gravité des vies. Surtout ce qu'elle dit, je pense que ça s'appelle Charlotte. Surtout me rappeler chaque détail de mes derniers clients, quand j'en ai un souvenir bien précis, pour y mettre un point final, comme on écrase la dernière clope pour arrêter de fumer. Et le dernier, c'est demain. Et le dernier, on arrête, stop ou encore. Donc chacun, ils sont d'ailleurs, il n'y a pas que la prostituée, il y a d'autres personnages de votre livre, Philippe Bruneau. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on prend une autre voie? Est-ce qu'on va... Voilà, tout le temps.
C'est la vie.
C'est la vie.
C'est la vie.
Et avec, justement, j'allais dire que la prostituée connaît le secret des corps, mais l'analyste, lui, c'est plutôt de l'âme. Il capte tous les... de l'esprit, c'est-à-dire c'est lui qui va capter l'histoire des uns et des autres. Donc il y a un point commun quand même entre les deux.
Ah oui, et puis d'ailleurs, cette réflexion qu'avait fait donc ce chauffeur de taxi qui m'a amené à dire, nous faisons le même métier. J'ai réfléchi à quelques-uns, je le mentionne un petit peu, que tout le monde connaît d'ailleurs. Il y a des coiffeurs qui ont une relation très intime avec telle personne. Alors c'est sur un autre mode, parce qu'en plus il y a une grande visibilité, il y a le miroir en face, mais il y a quelque chose de même ordre, et puis que traditionnellement les prostituées étaient des confesseuses, j'allais dire, il y avait une part des hommes qui avaient des liens de cet ordre-là, et c'était pas pour rien que pendant très longtemps, vous savez que on avait indexé le prix de la séance psychanalytique avec la passe de la prostituée. On s'est rendu compte, je me souviens dans les années 70, que peut-être en 80 après ça a changé, mais on avait dit que c'était presque indexé, c'était très proche comme prix.
Et puis vous parlez aussi des camés des psys. Oui. Est-ce que c'est une addiction d'aller voir son psy? Est-ce qu'il y en a qui multiplient les psys, qui ont, je suppose, il y en a qui en ont plusieurs. Est-ce que ça peut devenir une addiction?
Eh bien oui, c'est-à-dire que là, je ne dévoile encore rien que de dire que il va y avoir un personnage effectivement qui joue là-dessus. Mais c'est très vrai. La plupart du temps, quand c'est le cas, les psys ne le savent pas. Parce que la personne ne peut pas se dévoiler. Je le dis pour toutes les personnes qui écouteraient que ça ne sert jamais la personne, c'est même l'inverse. Ça va donner du doute. Parce qu'on va amener, des choses vont être différentes entre deux personnes, et ça ne veut pas dire que ça soit faux, mais c'est la personne qui va s'y perdre. On peut être aidé, accompagné, parce que justement, on fonctionne par rapport, non pas une référence, mais par rapport à un point qui nous renvoie nous-mêmes, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des addictions, et il y a des addictions au même psy, et il y a des relations qu'il faut déterminer, et c'est ce que fait César à certains moments.
Alors les jeux de mots, le transport, transfert, il y en a beaucoup, ça vous adorez les jeux de mots, hein, vous m'avez dit hors antenne.
C'est-à-dire que j'ai aussi joué sur le fait qu'une part de la psychanalyse a beaucoup, par exemple la psychanalyse lacanienne, a beaucoup joué dessus. Est-ce que ça a toujours du sens? Non. Pas toujours. Parfois, ça peut être vraiment intéressant. Et on peut très bien, de façon ouverte avec un patient, dire, mais regardez, tiens, vous venez de sortir ça. Ça peut avoir du sens, mais par contre, ça peut permettre de parler. En tout cas, vous, c'est pas pour rien, peut-être c'est sorti. Et quelquefois, c'est très pertinent.
Et puis, votre roman, Philippe Bourneau, ça parle de la fragilité du thérapeute, du psy. Les patients n'imaginent pas l'impact que peuvent avoir leurs propos sur les blessures personnelles du thérapeute. Entre transport et contre-transport, la tâche de César était acrobatique afin d'éviter un surcroît d'émotions pour son client. On a l'impression, voilà, lui, il mène. La tâche que vous avez en tant que psy, c'est de mener chaque personne à bon port, comme le taxi finalement. Je t'amène dans ta voie, dans ta vie, je te ramène dans ta vie, ou je te réconcilie avec ta vie, ou, enfin bref, on reprend la route de ta vie.
Oui, César a d'une certaine façon une position presque de prophète. C'est presque Abraham qui mène son peuple vers la terre promise de la guérison. Et puis il se rend compte qu'il y a des écueils. Et notamment, l'un des écueils, c'est de connaître trop de personnes qui se connaissent. Et c'est ça que je vais essayer de... Que dénonce un petit peu. Mais ce sont les travers qui vont nous permettre de bien comprendre ce qu'est l'accompagnement psychothérapique. C'est-à-dire, ça se passe par rapport à soi, indépendamment de tout le contexte et même du thérapeute.
Et puis alors aussi, vous dites, c'était parole ou silence, un monde s'ouvrait, un mot à l'autre se refermait. C'est fou ce que les mots peuvent engendrer, des mots, pensait-elle, philosophe. Il s'agit toujours de Charlotte, dont vous dites, moi j'aime bien aimer, moi j'aime bien ces petits portraits à la fin. Charlotte, 44 ans, amie de César, d'apparence femme fatale, devenue escorte à l'âge de 18 ans, en réaction à sa famille, lorsqu'elle découvre le pouvoir du rouge à lèvres. Tout est dit. L'art du portrait, c'est important. Est-ce que on pourrait faire une adaptation cinématographique de votre livre, c'est Philippe Bourneau, ou théâtrale?
Oui, mais...
Vous aimeriez bien?
Moi j'ai... c'est vrai que c'est très visuel. Moi, je le vois comme ça, oui.
Tout à fait, hein. C'est hyper visuel, on pourrait faire. On va faire une pause musicale et on reprend après, on poursuit notre conversation.
Jacques Tati.
Ah, génial.
Quel temps fait-il à Paris? Je peux vous dire, il fait chaud.
Thank you. Ça datait de 1967.
Voilà, ça, tous les amoureux de Jacques Tati, nous parlions d'ailleurs, c'était le Paris à bord d'un taxi avec Philippe Brenneau, taxithérapie, ça vient de paraître chez Serge Safran. Nous allons maintenant parler du livre, du recueil de nouvelles, sans quitter vraiment le roman de Philippe Brenneau, mais nous acheminons vers Les Passagers de Gilles Verdet, ça vient de paraître aux éditions de La Rhubarbe. Alors Gilles Verdet, bon, vous êtes déjà venu. Voilà, vous avez un univers puzzle, je trouve. Vous êtes un fresquiste.
Fresquiste ?
Ouais, fresquiste. C'est-à-dire, vous faites des fresques romanesques. Vous aimez les vies qui se rejoignent avec des noms, justement, dans votre précédent livre, des noms qui ont une résonance. Alors, vous avez obtenu le prix de Grand Prix de la Nouvelle de la SGDL en 2016 pour Fausse Route. Hein. On s'était, je crois, rencontrés à cette occasion. Et là, ce sont des nouvelles, mais c'est vrai que ça pourrait être un roman. Alors, quand est-ce que vous savez, Gilles Verdet, que ça fait que votre livre, vous qui êtes quand même un grand professionnel, on va dire, hein, de l'écriture, etc. Quand est-ce que vous sentez que votre livre va donner un recueil de nouvelles ou un roman ? Enfin, quand est-ce que vous voyez la différence ?
Mais celui-là, en tout cas, c'est un recueil de nouvelles, principalement. Ouais. C'est un recueil de nouvelles. Chaque nouvelle peut être lue séparément, et chaque nouvelle a un début, un commencement et une chute, souvent tragique d'ailleurs. Et si on les additionne, ça fait un roman, parce que les personnages passent d'une nouvelle à l'autre, comme ils franchissent le Guadiana, ou comme, voilà. Tous les personnages qui sont dans chaque nouvelle se retrouvent dans les autres nouvelles après de façon différente. Les personnages principaux se retrouvent de façon secondaire. Mais pour moi, ce sont des nouvelles, oui.
Mais avec un arrière-plan,
voilà.
On voit ça. Les personnages, vous savez, comme dans, justement, puisqu'on parle de cinéma, là, on a eu la référence à Tati, c'est-à-dire, on pourrait voir, vous savez, comme dans les films muets, derrière les personnages, et puis hop, vous en sortez un, vous le ramenez, et les personnages, comme des ombres chinoises, poursuivent leur vie. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là, qu'il y a aussi dans le, finalement, aussi dans le roman de Philippe Brenneau.
Mais c'est surtout parce que le lieu de rencontre, c'est un lieu bien précis, c'est la frontière, c'est le fleuve, le Guadiana. C'est ça qui est important, c'est que tous les personnages vont se retrouver là, à un moment ou à un autre, dans des situations qu'ils n'ont pas cherchées. En fait, ils vont tous passer à l'acte, si je puis dire.
Oui, à l'acte. Alors, il y a cette phrase, la force maligne du malentendu qui favorise les rencontres, les pires ou les meilleures. À chaque fois, il y a un malentendu.
Ben, les rencontres, c'est toujours sur des malentendus, des quiproquos, oui. Oui, c'est la vie, ça.
Oui, mais à chaque fois, il y a un malentendu, un quiproquo, et la notion toujours périphérique. Je pense que vous habitez non.
J'habite près du périphérique. Voilà. Donc
il
voilà.
y a une incidence.
Il y a une incidence forcément, puisqu'il y a deux personnages, il y en a même trois, deux personnages, des retraités qui habitent près du périphérique, et puis qui décident de partir avec leur caravane et qui vont le plus loin possible, et puis qui vont jusqu'au bout de l'Europe, qui vont se poser à cet endroit-là, qui est un endroit édénique. Mais c'est des gens qui vivent de façon précaire. Ils ont qu'une petite caravane, et puis finalement ils vont trouver le moyen de peut-être de s'enrichir. En faisant du trafic de cannabis et en remontant régulièrement du cannabis d'Espagne pour le ramener en banlieue. Et au lieu que ce soit des go fast, c'est des go slow un peu, parce qu'ils vont avec leur caravane régulièrement. Et puis ils s'associent avec le boucher aussi, le boucher qui habitait sur le périphérique et puis qui est retraité aussi. Mais ça va être tragique pour eux, parce que là ils vont passer la frontière de l'illégalité et puis forcément ça va se terminer mal.
Ça va se terminer mal, il faut dire que c'est du recyclage, pas tellement. Ils recyclent leur vie d'une façon. Bon. On peut le lire aussi, c'est pas dramatique. J'ai pas trouvé ça dramatique. C'est une vie justement périphérique. Le périph, c'est lui qui fait la vie. Vous écrivez Gilles Verdet par ici, lui qui fait la vie plus ou moins jolie. La vie et les gens qui vont avec. D'un bord ou de l'autre, tout est différent. Donc il y a vraiment cette vision.
Tout à fait, bien sûr. Hein. D'autre côté, c'est une frontière aussi, le périphérique, c'est comme un fleuve. De l'autre côté du fleuve, c'est les précaires. La ville de Paris, bien enserrée dans les quartiers bourgeois. Et puis de l'autre côté, c'est la précarité.
L'intramuros et l'extramuros, peut-être.
Voilà,
est-ce que vous-même, vous vous sentez en périphérie de. Parce que vous avez commencé par le roman noir, hein,
oui.
Dans La Noire de chez Gallimard. Est-ce que vous-même, vous sentez un peu en périphérie de, je ne sais pas si maintenant on peut même appeler une littérature.
J'ai pas l'impression. Ça serait un peu prétentieux. Pour moi, c'est de la littérature. Oui, j'écris comme je le sens, quoi. Je pourrais pas écrire autrement ni autre chose.
Mais est-ce que la nouvelle est un genre périphérique?
En tout cas, elle est pas très appréciée des éditeurs. Hein, parce qu'on va proposer une nouvelle chez l'éditeur, il appelle la sécurité pour nous mettre dehors, plus souvent. Hein,
c'est ça.
C'est un peu difficile. Et on en parlait tout à l'heure. Dans les pays anglo-saxons, c'est au contraire, c'est un produit qui est très très recherché, mais ici non. Mais ça n'empêche rien. Pour moi, la nouvelle, c'est comme un alcool fort, quoi. C'est quelque chose de très concentré, de très très vif. C'est presque des nouvelles, c'est ce que vous avez écrit, Philippe, puisque finalement, il y a une unité de lieu, unité de temps, unité de... Et c'est une succession de nouvelles, presque.
Non. Oui, on pourrait dire, Philippe Renaud.
Bon, c'est-à-dire qu'il y a des... Oui, on peut découper, comme vous l'avez fait.
Ça aurait pu.
Le parallèle. Oui. Moi, j'avais cette conception du roman, et par contre, j'ai eu cette réaction par rapport à votre livre que je trouve, franchement, épatant. Moi, ça m'a... J'ai pris un grand plaisir à le lire, d'abord par la forme littéraire, qui est très poétique, parce que vous avez, par les ellipses, vous disiez, par la forme littéraire, alors j'ai pas assez lu d'autres textes de vous, mais par exemple les répétitions de formes, notamment verbales, y a des choses qui sont très très touchantes et qui donnent un rythme au style que je trouve très intéressant, des métaphores qui sont magnifiques. J'en ai une sous les yeux, moi j'avais aimé depuis sa construction, vous parlez du périph, donc vous le connaissez, vous habitez à côté, oui. Et vous dites que Robert habite du mauvais côté du périph, bon c'est peut-être vous Robert. Depuis sa construction des bagnoles, Robert en avait vu passer dessus, dans un sens, dans l'autre, des mille et des cents, des millions sûrement et même davantage, presque autant que les fourmis d'étoiles des ciels d'été. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de formules qui pour moi sont très imagées et qui m'ont beaucoup plu. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé, avec un dernier mot. Alors, je vais pas... moi, j'ai trouvé délicieux. C'est un roman dont chaque nouvelle est un chapitre, avec même certainement... Vous avez peut-être changé l'ordre, parce que celle qui est en premier devait être en dernier. Ça fait penser à cette espèce de flashback qui permet de dédramatiser quelque chose, et c'est formidable, parce que arrive un personnage à chaque chapitre. Arrive Eduardo, arrive Robert, arrive Richard, arrive Farida, Antonio, tadati, tadata. Mais il y a presque un personnage, et je trouve cette espèce d'unité donne un rythme, et ça a une très grande cohérence, et merci parce que j'ai beaucoup aimé sa lecture.
Bon. Je vous remercie, je suis très honoré.
Bon, bah, j'ai bien fait de vous réunir aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, moi je connais un peu votre écriture, Gilles Verdet, et il y a un travail sur l'écriture, vraiment. Il y a un travail sur l'écriture et sur une sorte de mélancolie de la vie, de vous rebondissez sur des éclats. C'est pas bisounours du tout, c'est même dur, parce qu'il y a des scènes de crimes, enfin de trucs assez et c'est voilà. Vous écrivez par exemple: la rivière à souvenirs était à présent si polluée qu'elle rejoignait Paname et la Seine dans le secret du souterrain, d'un souterrain. On pense aux Styx, on pense à la psy, on pense à l'inconscient, on pense au secret, on pense au cachet. Qu'est-ce que vous pensez au lecteur quand vous écrivez, Gilles Verdet? Est-ce que c'est le lecteur est votre ami?
C'est difficile à dire. En tout cas, pour reparler du rythme, mes textes, je me les enregistre, je les lis à haute voix, je me les enregistre, et c'est après, c'est la musique qui me fait corriger les mots comme ça. Mais en dehors de ça, il y a toute une, comment dire, une aventure sociale. Quand je parle de Farida et puis des jeunes ouvrières marocaines qui les filles crevettes et qui...
Oui. Oui, alors Farida ne voyait pas la mer, mais la santé. Elle entendait le vacarme alors qu'elle suscitait et l'appétit féroce qu'elle produisait. Toute la ville, de la Médina au nouveau quartier, de l'histoire à la modernité, était tournée vers elle. Elle captait tous les regards et toutes les convoitises, comme une tourneuse de tête, une affoleuse d'envie, un mirage d'oasis. Moi, j'aime bien, finalement, j'aime bien sûr la part sociale dans votre écriture, dans votre travail, Gilles Verdet. Mais ce que j'aime bien, c'est que vous sortez aussi de ça. C'est qu'on sent que tous vos personnages sont appelés vers une fenêtre de rêve.
Ah bah,
d'où les passagers, d'où la couverture, le fleuve.
Mais oui, et c'est le Guadiana.
À chaque fois, ils sont appelés. Ouais. Ils ne sont pas que dans la pesanteur non plus, quoi. Et on sent la fille crevette. Alors voilà, c'est... Alors, il y a un fil aussi conducteur, c'est la sous-traitance. À tous les degrés, j'ai remarqué.
Bien sûr,
que
bien sûr.
Le rendement et la qualité du travail des primo-arrivants conditionnaient la réembauche ultérieure, la soumission au pic de production et aux caprices météo aussi. Donc Farida, bien évidemment, elle est exploitée.
Elle est surexploitée pour son travail. Et la fin de l'histoire, elle est surexploitée, elle est tentée d'être surexploitée dans son intégrité aussi. Mais ça, c'est une des nouvelles que je préfère. J'aime bien Farida, cette jeune ouvrière marocaine. Et il faut savoir quand même que c'est la mondialisation radieuse, hein, quand même. Les crevettes qui sont pêchées, les petites crevettes grises qu'on mange chez nous avec du beurre, elles sont pêchées en Hollande ou en Belgique, elles descendent en camion jusqu'à la zone franche de Tanger, parce qu'elles sortent de l'Europe, mais à la zone franche de Tanger, il n'y a pas de prêt de douane. Donc c'est les petites ouvrières qui sont payées au lance-pierre et qui doivent décortiquer les crevettes pour qu'elles soient conditionnées et renvoyées après dans nos supermarchés, puis qu'on mange sur nos tables de restaurant.
C'est pour ça que ça s'appelle le Détroit, d'ailleurs. Ouais. Il suffit de passer le détroit pour tomber sur les crevettes.
Voilà.
Les filles crevettes.
Et les filles crevettes. Donc les filles crevettes, après, elles vont travailler à Huelva. C'est là où on fabrique, c'est là où il y a les usines à fraises et puis tous les légumes qui partent sur l'Europe du Nord. Et là, c'est aussi une exploitation terrible des jeunes filles.
Oui, mais tout ça, ça marche très très bien puisque les crevettes descendent de Hollande, viennent là, repartent. Ça marche très bien s'il n'y a pas de guerre.
Sans doute.
Alors, Merski, Nopaceran. Ça, j'ai bien aimé parce que ça donne un rythme en plus à la nouvelle qui est donc Détroit. Et ça commence et à la fin, on retrouve Nopaceran. Donc ça, j'ai bien aimé. Pour Farida, je pense que c'est toujours elle. Elle haussait les épaules et levait son verre en trinquant au soir, à l'instant présent, l'oubli et l'insouciance frappaient naturellement à leur porte. Et la douceur de l'air les rappelait à l'ordre, celui du désir légitime et de l'âge aussi. Il y a cette conscience du temps. Parce que tous ces personnages, tous vos personnages, Gilles Verdet, vous parlez d'ailleurs, il prenait l'âge en avance, l'âge qui avançait plus vite qu'un ragtime cavaleur sur un piano mécanique. Un ragtime cavaleur sur un piano mécanique.
C'est le British qui court après les chimères de l'addiction, de la drogue et de l'alcool, et qui va traverser l'Europe, qui va rencontrer Angela le jour où le mur s'effondre. Et puis Angela qui dit j'y retournerai plus jamais. Et puis ils partent tous les deux et ils finissent par se retrouver eux aussi près du Guyana.
Et la normalisation. Vous êtes, en fait, toutes ces vies périphériques sont contre la normalisation. La normalisation, dites-vous, réduisait chaque année le train de vie des existences buissonnières. Donc chacun se débrouille avec sa vie et trafique. Et donc des trafics et donc des vies qui sont pas. Mais je parlais tout à l'heure de la sous-traitance, y compris sur un plan littéraire. À la fin, il y a une nouvelle.
Ah oui, l'écrivain américain.
Voilà.
Paddy, qui a un nom de whisky.
Oui, Paddy. Bah, j'aime bien Paddy, moi. Ouais. Je me suis demandé si vous identifiez pas à Paddy.
Mais non, parce que moi, j'ai pas de nègre littéraire. Non, je jure que j'écris tout.
C'est pas un nègre, c'était son ami. Et parce qu'elle est pas nègre, c'est elle qui lui. C'est son inspiration.
C'est-à-dire qu'il pensait que son étudiant, c'était lui, son nègre littéraire, mais en fait, c'était la femme de l'étudiant. Et la femme d'étudiant est partie. Donc, il faut absolument qu'il retrouve effectivement son inspiration et qu'il retrouve.
Voilà ce que vous écrivez de Paddy. Paddy découvrait brutalement les faiblesses de la sous-traitance, donc voilà, et ses contraintes. Savait pourtant qu'il ne pouvait pas changer de fournisseur. La fidélisation des consommateurs induit des règles strictes, une ligne éditoriale, un cahier des charges. Y déroger risquait la faillite. Donc, c'est une nouvelle que j'aime bien parce qu'en même temps, elle dénonce un peu la standardisation littéraire dont nous sommes malheureusement témoins. Et voilà, lui, il sous-traite parce qu'il doit répondre à un éditeur qui est...
La standardisation littéraire, vous voulez dire.
Ouais. Ouais. Bah oui, il doit répondre, vous en parlez d'ailleurs. Le succès littéraire, comme n'importe quelle entreprise marchande, réclamait de la croissance et de l'expansion, du toujours plus, une surenchère plus commerciale qu'éditoriale. L'éditeur suggérait un thème et pas dit... écrivez, ou plutôt rédigez, pas davantage.
Mais oui, parce qu'il a un nègre littéraire. Mais bon, vous connaissez un peu le milieu littéraire. L'exception culturelle, je crois que c'est une farce. Je veux dire, dont les auteurs sont les principaux dindons. Et des fois, ils ont des belles plumes, les dindons.
Ah oui, bien sûr.
Ah bah oui, ils ont des belles plumes. On va faire une pause littéraire et on va voir si les dindons ont vraiment des belles plumes.
Alors,
Justement, vous m'avez confié un disque,
oui,
d'une chanson que vous avez écrite. Et je ne sais pas si vous connaissez l'émission de Bulle Noire, Rock et Polar. Ça serait pour lui, ce disque. Et cette chanson s'appelle
« Tu mens ».
Tu mens.
Ouais, bah vas-y.
T'es toujours prête à la dégoisse, sapée d'un sourire en face à ta compliment. Qui pavoise tes bavardes roucoula. Tu mens, tu mens, tu mentiras. Du boniment et des serments, du vent, du vent. Tu m'en feras bien plus qu'une mère par gros temps. Chante mon oiseau, chante ma divette, tes ritournelles, tes sérénades. L'amour ça naît dans les guinguettes, sa vie ça meurt dans une balade. Tu mens,
tu mens,
tu mens,
tu mens,
tu mentiras. Du grand soir au petit matin, des mots,
des mots,
des mots,
des mots.
Tu mentiras. T'es qu'une chiqueuse de baratin. Tu mens, tu mens, tu mentiras. Au fond du lit, au creux de l'oreille, du goût du tout, tu m'enchanteras. Je les entends dans mon sommeil. Java, des bobards, des crabes, des blagues et des postiches. Au bal masqué, des racontards, des pantins, des jamais chiches. Tu mens,
tu mens,
tu mens,
tu mens,
tu mentiras. Je suis bon client et pas regardant. Tu faux,
tu faux,
tu faux, tu mens, pas serein. Je prends tout pour argent comptant. T'as dû baratiner Vénus, marchander avec Cupidon. Non, jouer de ton Stradivarius. Tu la maquilles au ricolin, de ton bagout, de ton jaspin, au gré des airs de tes refrains. Tu mens,
tu mens,
tu mens,
tu mens,
tu mentiras. Fais ton signe, j'envoie tes chars. Tu toques,
tu toques,
tu toques, tu m'en refileras. La vie est roche, je suis un vénard.
Alors, c'est le groupe Polaroid Rocks et l'auteur, c'est Gilles Verdet.
Oui, l'auteur, c'est Gilles Verdet pour... Ah oui, c'est vous.
C'est moi.
Voilà, c'est vous. Et nous parlons aussi des Passagers, recueil de nouvelles qui viennent paraître aux éditions Rhubarbe. Alors, Gilles Verdet, oui, je disais tout à l'heure, bon, moi, j'aime bien ce côté fenêtre, voilà, le rêve que tous ces... Parce que... Les villes portuaires, c'est pas un hasard non plus. Le fleuve, c'est pas un hasard. Elle rêve d'Amérique. Paraît qu'il y a des cargos ici qui prennent des passagers. Il a jeté un coup d'œil à la fille déglinguée, puis à Joachim, avant de se contraindre à sourire. L'improvisation était la plaie de toutes les grandes entreprises et le catalyseur de tous les échecs. Donc il y a à la fois le rêve et puis la déglingue de la réalité, toujours.
D'autant que ces personnages qui parlent là sont des hommes d'affaires, mais des narcotrafiquants qui vont en Guinée-Bissau, puisque l'Afrique est approvisionnée en cocaïne par... notamment par la Guinée-Bissau.
Voilà, et puis aussi, la mer apportait la douceur et les oiseaux marins lui refilaient la réplique. une situation privilégiée qui lui faisait voir la vie sous ses meilleurs côtés et l'écrire sous les plus sombres. Paddy écrivait du noir, du très noir. La vague du serial killer avait fait sa fortune. Celle des psychopathes, ça j'aime bien, celle des psychopathes à la ramasse, des pédophiles embusqués et des barrés du ciboulot devaient lui assurer une retraite confortable. Donc là, vous décrivez tout le milieu finalement du polar. Que vous connaissez bien.
Oui, enfin, moi, c'est pas ce que je pratique, les histoires de psychopathes. Hein,
non,
mais...
non.
Mais effectivement, c'est quelque chose qui marche plutôt bien dans le genre.
Oui, parce que finalement, chacun est tenu, et c'est un peu ce que dénonce votre recueil de nouvelles, Gilles Verdet, à un rôle. Et finalement, tous vos personnages se refusent à jouer ce rôle. Sur les retraités, bon, ils jouent le rôle, mais enfin, ils jouent un autre rôle après, de trafiquant. Enfin, chacun, finalement, essaye d'échapper au rôle qui lui est attribué.
Oui, ben parce que cet endroit-là, c'est le paradis, c'est l'avenir radieux. Donc tout le monde imagine qu'ils vont trouver le bonheur à cet endroit-là, qu'ils vont changer de vie, qu'ils vont passer à l'acte, et puis non.
Et je crois que c'est la dernière nouvelle qui s'appelle Le Delta.
Oui.
Donc moi j'ai bien aimé parce que c'est un nouvel un peu sur la peinture.
Leonardo.
De tous ses voyages et de toutes ses lectures, Leonardo entretenait une attirance particulière pour les deltas. Voyez se dessiner dans ces triangles magiques l'œil de Dieu et de toutes les puissances contraires qui poussaient au mouvement. Le Nil, le Mississippi, la Camargue. Là venaient battre les ailes des grands migrateurs. Là s'ouvraient les bouches béantes des fleuves. Là venaient lutter les forces vives de la nature. Là naissaient les remous, le maelstrom, le courant contre les marées, la mer face à l'eau vive, le vent du large contre celui des plaines. Donc peut-être, voilà, il y a toute une poésie, comme vous disiez, Philippe Brenaud. Peut-être d'ailleurs ça pourrait être aussi un rêve de César.
Oui, mais je reviens sur Leonardo.
Parce qu'il y a l'Amérique latine en commun.
Il y a l'Amérique latine en commun, même si je ne veux pas dévoiler trop l'histoire. Ouais, Leonardo est un personnage, moi je trouve formidable. Cette dernière nouvelle qui termine, bien sûr, c'est un peintre, mais il veut faire des choses extraordinaires. Il veut saisir les derniers moments de la vie.
Le passage.
Le passage. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, ce peintre, il y a quelque chose dans l'histoire de la peinture, hein, dans les natures. Je me souviens de quelque chose qu'a essayé de faire Dali à un moment donné, qui l'appelle nature morte vivante. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire, essayer de montrer la vie, ce qu'a fait la grande peinture classique. Et là, saisir les derniers moments de la vie, au moment où la vie va s'éteindre. Et Leonardo est en train, et dans un moment charnière, et ça termine le livre d'une façon, moi, je trouve somptueuse.
Ouais. Et sereine, d'ailleurs.
Oui, enfin, sereine, il a une activité qui n'est pas tout à fait...
Non, bah, comme d'habitude, hein, avec vous, de toute façon, ils n'ont jamais des... Voilà. Mais Leonardo, lui, fuyait le monde et les bruits des autres, tracer sa vie à l'oblique, j'aimais bien ça, tracer sa vie à l'oblique, sur les chemins de traverse et les sentiers paumés, parler peu, préférer l'ombre et la pénombre, il s'est barré entre les arbres, ne pas assurer. J'ai dû faire une faute, il s'est barré entre les arbres, n'a pas assuré.
Non, mais oui, Leonardo, c'est... Oui, en même temps, c'est le contraire. C'est ce type qui recherche la beauté, qui recherche le mouvement, le passage, l'espèce de chose qui fait la vie ou qui défait la vie. Il a une activité qui est quand même pas recommandable.
Voilà. C'est jamais recommandable, tout personnage.
On va de surprise, enfin de surprise en surprise. C'est plein de rebondissements. Moi, je trouve ça passionnant pour ça.
Et le dernier paragraphe, c'est il voulait tout saisir, les couleurs changeantes, le dernier mouvement de la vie, le souffle accéléré, les battements du cœur, les tremblements et le moment d'après, le passage. Donc voilà, c'est venu. Alors. On sent que c'est venu quand même à une époque charnière aussi de votre vie, Gilles Verdet, ce livre. Comment il s'est écrit en vous? Comment vous l'avez...
C'est très difficile de parler de... Mais je crois que personne ne peut parler d'inspiration. C'est un grand mystère. Hein, moi qui ai pratiqué un peu la psychanalyse aussi, en tant que patient, c'est vraiment un grand mystère, l'inspiration. D'où ça vient, tout ça, on ne sait pas. Et moi, en tout cas, ce que je peux dire pour moi, je peux parler... C'est toujours très difficile différent pour chaque auteur, chaque écrivain a toujours une pratique différente. Moi, c'est l'écriture qui génère l'écriture. C'est-à-dire que les personnages, les idées, elles viennent en écrivant. C'est les mots qui génèrent les mots. J'arrive pas, je connais plein d'amis écrivains qui font des plans, je sais pas comment vous travaillez, qui font des plans, qui rédigent ça, et puis après qui rédigent le livre en entier. Moi, non. Les choses me viennent en écrivant.
À la main ou sur l'ordinateur ?
Sur l'ordinateur, puis après je les lis, mais très sincèrement, quand j'écris le début de nouvelle, je ne sais pas comment ça va se terminer.
Vous savez pas. Et vous, Philippe Bruneau, comment ça vous cogitez beaucoup avant vous...
Ben, ce livre, Taxithérapie, est mon premier roman. Je le dis comme ça. Mais j'ai écrit beaucoup de livres. Je sais écrire des livres.
Oui, voilà.
Je commence à me mettre dans cette position de fiction qui est totalement différente. Dans la non-fiction, on construit. Je sais écrire des livres, 200 pages me viennent en un mois, en deux mois, ça n'est pas difficile, et là je recopie d'une certaine façon ce qui me vient. Lamartine disait ceci, je n'ai eu rien à faire, je recopie ce que mon cerveau me dit, je crois que c'est presque pareil dans la fiction, mais suivant si qu'on se met dans une disposition autre, enfin c'est ce que je suis en train de faire, et notamment pour cela, c'est-à-dire quelque chose qui infuse. On se laisse aller totalement, puisqu'il y a plein de façons de faire, sûrement. Et des choses viennent, tiens, c'est marrant, des choses intéressantes. Mais moi, personnellement, j'essaie pas trop de noter. Et puis, elles s'organisent. Mmh. Et tout d'un coup, il y a quelque chose. Et ça m'est arrivé souvent, et récemment, peut-être que ça deviendra un autre roman. Il me vient toute une histoire, je l'écris, ok. Et puis, je reprends ça, deux pages, je dis, mais de qui c'est ? Ça. Je vais chercher sur Google Books s'il n'y a pas des... J'ai recopié ça quelque part jusqu'à mettre assez longtemps à comprendre que c'est moi qui l'ai écrit. Et c'est ça qui me semble plus intéressant. Alors là, qui n'est pas du tout de l'essai ou de la non-fiction, oui, il y a des choses qui sortent tout seules. Et peut-être le terme d'infuser, ce que vous évoquiez tout à l'heure, oui, il y a des choses qui infusent en nous.
Oui.
Et puis, il n'y a pas besoin de savoir pourquoi.
Mais le phénomène de reconnaissance, de se reconnaître, est-ce que vous retravaillez beaucoup vos textes?
Oui, je les retravaille, oui, je les relis, je les retravaille, oui, oui, oui.
Et vous, oui, Philippe Bruneau, est-ce qu'il y a eu beaucoup de... Comment l'ordre, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, ouais, vous l'avez évoqué, ouais. L'ordre a changé
L'ordre a changé, oui, j'avais écrit les autres, et puis finalement, c'est comme un... Ouais, c'est un shaker, qu'on les remue, et puis... ouais. Mais les histoires, comme les histoires se recoupent, voilà, puis après on retrouve les personnages, oui, changer l'ordre. Enfin, la dernière, en tout cas, c'était celle-là, on ne pouvait pas la changer.
Ouais. Moi, celui-là, ce roman a été... très très différent et il n'avait même pas du tout ce titre et oui il a changé mais il y a quelque chose de l'ordre de la spontanéité je trouve dans la fiction des choses qui viennent alors après c'est pas vrai pour tout le monde puisqu'il y a des très bons romanciers qui construisent
bien sûr mais chacun c'est très singulier hein. c'est vraiment quelque chose d'intime je pense hein, le travail d'écriture donc il n'y a pas de règles ni de non. C'est comme ça.
Est-ce que vous travaillez sur plusieurs manuscrits à la fois ? Ça vous arrive ?
Ça m'arrive, ouais, de laisser des manuscrits, de les reprendre après.
Il y a des rythmes qui prennent, d'autres pas. Enfin, parce que moi, je trouve que votre écriture est musicale. Hein. Elle est scandée. Voilà.
Oui,
la scansion,
oui.
Vous me parliez de la lecture à haute voix.
Oui, ça, pour moi, c'est important. Hein. Je fais la lecture à haute voix pour écouter.
Ah, oui.
Et vous aussi, Philippe Bruneau ? Peut-être pas, non.
Moi, j'ai... Ah, si, tout à fait. Mais la première question, dans ma tête, j'ai une dizaine de livres que si je voulais m'y mettre... Alors, je parle pas de romans, mais des livres qui vont s'écrire. Il y en a trois là, qui vont s'écrire, mais il suffit que je trouve le temps de le faire. Par exemple, dans la fiction, moi, personnellement, le style est très important. Et je vais le passer au gueuloir. On le connaît tous, le terme. Flaubert nous a appris. Et franchement, ce roman a été réécrit, je sais pas, moi, 10 fois, bien sûr. Mais après, chacun fait... Mais je crois que la plupart... Alors, il y a des gens aussi qui ont des premiers jets extraordinaires. Moi, il ne me satisfait pas.
Bon. Est-ce qu'il y a un livre à tous les deux qui a marqué votre... Vous souvenez-vous du premier livre que vous avez lu l'un et l'autre ?
Premier livre, c'est difficile, hein, c'est livre de jeunesse. Donc, ouais. Mais celui
qui est, ou l'auteur qui vous a marqué, qui a dit voilà, moi je vais écrire.
Ouais,
parce qu'il y a des fois un écrivain qui vous dit ah bah là, ça me donne envie d'écrire.
Ouais, enfin il y a des livres qui m'ont marqué, mais c'est pas ça qui m'a forcément aidé à écrire. Quand j'ai lu le Voyage au bout de la nuit, j'ai eu vraiment un choc littéraire. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas ça qui m'a donné envie d'écrire. Après, l'écriture, je sais pas. Pareil.
Fibrono, ça n'a pas l'air.
Si, moi j'ai beaucoup été marqué par Kundera, quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais non, ce qui m'a.
Avec la présence de le côté psychanalytique qui est présent chez Kundera.
Et le hasard. Son travail sur le.
La philosophie.
Sur le travail de la réflexion sur le roman. Mais non, en fait, moi, ce qui m'amène à cette fiction dans laquelle je me laisse aller, c'est que je vis une histoire très particulière. Ça fait 30 ans que je vis avec, dans mon bureau, 300 pages de La Main de Romain Gary, qui est ce premier roman de Romain Gary qui s'appelle Le Vin des Morts, que j'ai publié chez Gallimard en 2014 avec une très longue présentation, parce que c'est 300 pages de La Main de Gary, sans aucun chapitrage, qui explique tout son œuvre. Il l'écrit en 1937, Le Vin des Morts, il sera jamais publié de son vivant, il va le promener toute sa vie. Pour X raisons, c'est moi.
Et vous l'avez comment ça c'est...
Je vais dire ça.
C'est comment le vin des morts atterrit dans votre.
C'est ma fiction. Je vais dire que Romain Gary me le donne avant de mourir, et d'une certaine façon, oui. Et donc, il est publié, c'est chez Gallimard dans les cahiers de la NRF, et ça permet de comprendre. Tout le travail de, je dirais, de lui-môme. C'est pas lui-même, mais lui-môme. Gary écrit en 1937, mot à mot, ce qu'il mettra dans Ajar en 74. Il y a l'histoire entière de Gros Câlin. Et donc j'ai d'abord travaillé très longtemps, j'ai passé 20 ans à essayer de le comprendre pour arriver à le publier, et ainsi de suite. Oui, ça m'a marqué complètement, et je laisse faire ça. Il y a du Gary dans le taxithérapie.
Avec plusieurs identités, le choix.
Même là, il y a des identités cachées.
Alors, le vin des morts, je pense aussi au vin de la jeunesse de John Fante, oui. Qui est un bon livre aussi. Est-ce qu'il y a l'importance pour l'un et l'autre de la première et de la dernière phrase? Là, je vous pose des questions, vous voyez, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, donc nous sommes moins dans la plongée de vos deux livres, des questions un peu plus générales. Mais je pense, Gilles Verdet... Voilà, je vous ai dit No Passerane tout à l'heure. La première et dernière phrase.
Oui, bien sûr. Je pense
dans la nouvelle, c'est capital.
Oui, complètement. La première phrase, oui. La première phrase, c'est qui nous fait plonger dedans, et c'est vraiment. Et c'est ça qui accroche l'eau, qui donne envie d'écrire. Oui, vraiment. Et la première phrase, c'est la plus belle.
Oui, c'est vrai que l'incipit est fondamental, on le sait tous. Pour moi, comme j'ai rajouté le début, c'était pas ce que j'avais mis en début, c'est la fin. Qui a constitué, ça me fait penser à quelque chose que disait Jules Verne. Jules Verne fonctionnait beaucoup avec quelque chose vers lequel il progressait. Et la fin, je l'ai écrite tout à fait au début. Je la cite pas, mais pratiquement les dernières phrases qui tombent comme ça, ça construit tout le livre.
Ouais. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre avez une idée de votre lecteur? Est-ce que vous avez des correspondances avec vos lecteurs, peut-être vous êtes voilà, il y a des lecteurs qui vous posent des questions, qui mais quand on écrit des fois on est son propre lecteur, on doit prendre de la distance. Après il y a des relectures, ou est-ce qu'on pense à un lecteur idéal comme ça qu'on a?
Non, je crois pas, non, je sais pas. Non, honnêtement, quand on écrit, on pense pas tellement au lecteur. On essaye d'écrire vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on a envie, que ce soit lisible, que ce soit bien, on a envie d'être lu, mais on n'a pas, je crois pas qu'on ait un.
C'est l'éditeur, le premier lecteur.
C'est l'éditeur, mais.
Et vous changez d'ailleurs. D'éditeur, pas souvent, mais enfin,
si,
vous avez. Gilles Verdet, en fait, c'est une volonté de.
J'ai publié 8 livres, c'est 8 éditeurs différents. Oui,
voilà. Mais ça vous permet aussi, c'est une façon de se renouveler, parce que vous auriez pu très bien. On sent que vous ne voulez pas vous installer non plus dans une forme de routine.
Je sais pas, c'est aussi des éditeurs qui pensent que je ne gagne pas assez d'argent pour eux. voilà.
Oui, mais c'est bien le changement parfois.
Mais bien sûr.
Ça amène à.
J'ai très bons éditeurs, Rhubarbe, L'Arbre Vengeur.
L'Arbre Vengeur, c'est excellent.
Ginko, j'ai publié chez Ginko, c'est des éditeurs, tout à fait.
Ah ouais. Et on vous a vu récemment au marché de la poésie.
Absolument.
C'est un petit marché que vous aimez bien.
Voilà.
Et vous, Philippe Renaud, vous avez été éditeur d'ailleurs de formation.
J'ai été éditeur pendant 30 ans. Aujourd'hui, j'ai pris un peu de distance avec l'édition. J'avais monté L'Esprit du Temps, qui a été un éditeur d'une certaine importance pendant très longtemps. Je pense beaucoup, moi, au libraire, parce que l'acheteur du livre, c'est le libraire. Et c'est très vrai que c'est eux qui vont ensuite les mettre sur des tables, c'est eux qui vont les faire connaître. Maintenant, ils font des notes de lecture. Alors, si, quand même, j'ai envie qu'ils puissent être lus. Donc, je fais très attention à la forme, mais pas avec complaisance. J'ai envie qu'il n'y ait pas de lever tous les malentendus, qu'il n'y ait pas de difficultés, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Bon, c'est le propre de l'écriture. Après, je sais pas trop quoi dire là-dessus, non.
Oui, mais enfin, si, c'est très bien. On va justement, ça amène. Je vais vous poser la question des prochains rendez-vous en librairie. Est-ce que vous aimez, vous, Gilles Verdet, parler de vos livres en librairie? Vous êtes quelqu'un de... Voilà, vous aimez cette rencontre-là, un peu... Bah, souvent, on est dans une librairie, il n'y a pas grand monde, mais il y a des gens qui viennent, justement, des gens qui peuvent être seuls, qui peuvent être...
C'est très agréable, oui, bien sûr.
Vous avez fait des ateliers d'écriture?
Non, jamais fait d'atelier d'écriture, mais j'ai fait beaucoup de signatures et de rencontres dans les librairies, oui, bien sûr, et des lectures de textes, oui.
Ouais. La prochaine, pour vous, Gilles Verdet, c'est
Samedi, à Gentilly, à la librairie Gentilly, sur la place du village. Voilà.
D'accord. Samedi à quelle heure?
Samedi, en fin de matinée, ça doit être 10h, 11h.
Oui, donc voilà, il faut bien le préciser. Parce
mais
que
oui,
vous...
bien sûr.
Et voilà,
bien
c'est
sûr,
pour ça
bien
que vous
sûr,
le préciser.
Bien sûr. Librairie Girbal, place du marché, à 11h, samedi 25.
Et on peut voir, donc ça sera pour la rue, les passagers. Hein,
notamment pour les passagers, et puis les
passagers,
autres livres que j'ai publiés
et
aussi.
Et les autres aussi.
Bien sûr, oui.
Et vous n'avez pas de site internet, vous aussi?
Non.
Bon, on peut voir sur le site peut-être de l'éditeur.
De Rhubarbe, bien entendu.
Voilà, de Rhubarbe, ça sera indiqué.
Et puis, si les libraires ne les ont pas, il suffit de les commander chez l'éditeur, ils les envoient gracieusement.
Bon, super. Et vous, Philippe Renaud, prochaine rencontre?
Eh bien, écoutez, puisque nous sommes un jeudi, c'est dans 8 jours, jeudi prochain, c'est le 23 juin, sera à 18h. Et alors, ça se passe à une librairie que j'aime beaucoup, qui est la librairie L'Humeur Vagabonde, c'est dans le 18e à Paris, mais qui est dans un lieu particulier, c'est juste rue du Poteau, c'est juste à Jules Geoffrin. Jules Geoffrin, c'est la mairie du 18e. Or, il se trouve que ce roman se passe... commence dans la rue du Mont-Cenis, se passe beaucoup dans le 18e, et va se terminer, puisqu'on a évoqué un mariage, dans cette mairie du 18e. Donc en définitive, c'est un petit débat signature dans les lieux où a commencé ce roman, puisque effectivement j'habitais dans le quartier, et c'est venu de quelque chose qui a inspiré ces rues du 18e.
C'est fou, là la boucle est bouclée, donc à chaque fois vous retombez sur vos pattes, comme César. Il y a beaucoup de mouvements giratoires qui retombent sur ses pattes et qui retombent y compris dans son passé,
oui,
et dans
vrai.
Sa vie.
Il faut que je me dépêche d'ailleurs parce qu'il m'attend dans la rue. Là, il est avec son taxi.
Bien sûr,
dehors, hein,
voilà. J'en suis sûr, il est là. Merci à tous les deux pour cette belle rencontre.
Avec grand plaisir. Merci.
Voilà. Alors, nos auditeurs peuvent lire donc Philippe Renaud. Taxithérapie, ça vient de paraître aux éditions Serge Safran, et puis ils peuvent se constituer une petite bibliothèque Philippe Renaud. Mais moi, je serai attentive surtout à la fiction, puisque grâce à la fiction, on part dans un ailleurs qu'on ignore, dont on ignore tout. Et vous, Gilles Verdet, donc j'encourage aussi tous nos auditeurs à lire Les Passagers, recueil de nouvelles. Petit recueil de nouvelles, c'est intense, bien concentré, avec un degré, je dirais pas, un élixir de vie, on va dire.
Ouais, les nouvelles, c'est des alcools forts.
Ouais, voilà. Et je sais que vous êtes un fin connaisseur. Et puis aussi, on peut citer aussi peut-être le livre aussi à l'Arbre Vengeur.
L'Arbre Vengeur, Nom de Nom.
Nom de Nom, voilà.
Ouais,
très bien.
Très bon éditeur aussi.
Très bon éditeur, voilà. Et c'est un très très bon livre aussi. Merci à Flo Descailloux de nous avoir accompagnés. L'émission s'achève. Je pense que Flo Descailloux nous a réservé la surprise du chef. Flo Descailloux.
La surprise du chef, c'est « J'ai pas peur du loup » d'Anne Sylvestre. J'avais préparé, t'en souviens-tu, la scène? Et puis je trouve que avec l'atmosphère, ça va bien, « J'ai pas peur du loup ». Et puis pour faire la transition avec la deuxième émission, nous allons partir à Montreuil, chez Michel Ragon, dans une exposition sur Michel Ragon. Je mettrai Guème, la ville, comme transition. Anne Sylvestre, j'ai pas peur du loup.
T'en souviens-tu, la scène ?
Eh ben, je me suis trompée. C'est t'en souviens-tu, la scène que j'ai mis ? Eh ben non, je veux mettre j'ai pas peur du loup. Pardon.
J'ai pas peur du loup quand tu m'emmènes dans les bois, mais j'ai peur de toi quand tu joues à faire le loup. Quand le printemps nous tourmente, quand les lauriers sont coupés, tu t'en vas le long des sentes que l'amour a défrichées. Si tu veux que je sois douce, ne fais pas ton loup-garou. Fais plutôt pâte de mousse, dis ta prière à genoux. J'ai pas peur du loup quand tu m'emmènes dans les bois, mais j'ai peur de toi quand tu joues à faire le loup. Le soleil qui nous inonde ne me brûle pas tant que toi. Je n'ai que ton cœur au monde. Laisse baisse tes paupières, ton regard me blesse au cœur. Me voici ta prisonnière, et je crois bien que j'en meurs. J'ai pas peur du loup quand tu m'emmènes dans les bois, mais j'ai peur de toi quand tu joues à faire le loup. Donne-moi toutes les vagues que je cours minoyer. Donne-moi toutes les bagues que mes doigts pourront porter. Si tu veux que je t'accueille, ne viens pas en empereur. Si tu veux que je te veuille, viens apprendre la douceur. J'ai pas peur, j'ai pas peur de moi quand c'est toi qui es le loup.
D'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie je vais sans souci. Au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger, je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde.